Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her tears or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Ça, à mon avis, ça fonctionnait pas tout à l'heure. Et là, il y a 14 personnes qui sont connectées, ça y est.
C'est génial! Bonjour les gens!
Salut!
Comment ça va?
Ça y est, vous pouvez nous parler. Hein. On est là, on vous écoute. Vous avez loupé un grand moment.
Ah ouais, j'ai commencé bien l'interview.
Patrick Drahi.
Salut
Patoche. Ouais, vous avez raté un grand moment.
Ouais, j'ai arrosé Léa de mon diabolo.
Sans deck.
Voilà. Elle est diabolotée à cause de moi.
Totalement diabolotée. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que ça, c'est important. L'avantage, c'est qu'on n'est pas en plein hiver, donc ça va sécher rapidement. Je pense que vous nous entendez. Ouais, nickel. Cool, cool, cool.
Trop
bon,
bien.
Vous savez qui est cette personne à côté de moi, à ma droite?
Allez,
le premier qui répond a gagné, mais a gagné rien du tout.
Merci.
Ah, merci.
Essayez d'en faire un bon usage.
Oui, qui c'est? Madame Mathilde Panot. Oui, très bien. Bravo.
Ça,
merci
ça
beaucoup. Chambé, merci.
Ah, merveilleux.
Hop là.
Voilà, le chaud vient d'arriver.
Voilà, je peux me nettoyer. Bonjour, bonjour les gens. Bonjour, bonjour. Donc, c'est le deuxième stream avec une invitée politique en la personne de Madame Mathilde Panot. Tu vas te présenter, Mathilde, s'il te plaît. La roseuse. Tiens.
Bonjour tout le monde. Donc Mathilde Panot. Moi, je suis députée du Val-de-Marne, vice-présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Et finalement, pour tous ceux qui disaient que les élus de la France Insoumise ont été des violents, bah, la preuve.
Ouais, voilà. C'est clair.
J'arrive, je renverse mon verre sur Léa, la pauvre.
On sait, c'est ceux qui auraient loupé ce grand moment parce qu'en fait, on a lancé un stream juste avant qui, je crois, n'avait pas fonctionné. Et. Du coup, Mathilde a, par inadvertance naturellement, renversé son diabolo orja sur mon jean tout neuf.
Voilà. Et effectivement, poissonnière et fière de l'être, puisque quelqu'un est en train de mettre ça dans le chat.
Ouais, c'était quand ça?
Ça, c'était en... Je dirais en février...
Ouais, février-mars, non?
Ouais, février-mars. C'est un député de La République En Marche qui avait cru bon, alors que je montais à la tribune, j'avais même pas commencé à parler, de me crier que j'étais une poissonnière, tandis qu'un autre que nous n'avons lui jamais retrouvé me criait que j'étais folle, ce qui était fort sympathique.
Ouais, c'est dommage qu'on l'ait pas retrouvé celui-là.
Ouais.
Mmh.
Et bon, alors fait historique quand même, il a été sanctionné, ce qui arrive très très rarement dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Et puis, ça m'avait donné l'occasion de rencontrer Patricia.
Oui,
Patricia Serrault, qui est une, d'ailleurs que j'ai revue cet été, là, il y a 400 jours de ça, qui est une poissonnière dans le Morbihan et qui avait pris ma défense à la radio et dans la presse. Et donc, j'ai été passer toute une journée avec elle de 2h du matin jusqu'à 14-15h. Donc, faire la crier, la tourner. Et pour bien emmerder, quoi, parce que lui, il croyait que c'était une insulte, mais en vrai, poissonnière, ouais. C'est un métier poisson. Passion, pardon. Poisson ouais, aussi,
poisson
mais passion.
Aussi.
Et c'est un sacré dur métier, quoi. Se lever tous les jours à 1h20 du matin, vous voyez un peu le truc. Et donc voilà. En tout cas, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien.
Oui, bonjour.
Après la commission sur l'eau, on reste sur le thème en arrosant son intervieweuse. Voilà, c'est ça. Finalement, j'étais dans le thème.
Comment on fait pour virer des gens désagréables? Alors attends, parce que là on se fait troller par un tocard. Voilà. Hop. Parce que je sais pas ce que c'était comme. Ok, pardon. Alors, commission. Oui, bah attends, t'avais une actu sur l'eau d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as raconté un peu. Ça c'est intéressant.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me disais ça tout à l'heure.
En gros, hier on a fait notre rentrée parlementaire dans l'hémicycle. Donc c'était sur les Outre-mer. ils veulent prolonger ou instaurer, selon les territoires d'outre-mer, l'état d'urgence sanitaire. Donc ça, c'est les macronistes en toute leur splendeur pour faire face à un virus. Et ben, ils aiment bien avoir des petites mesures autoritaires et liberticides, et ils pensent que c'est une bonne manière de faire face à cette épidémie, et avec la catastrophe qu'on connaît. Mais il faut imaginer, dans les territoires ultramarins en ce moment, mais c'est la catastrophe. En Guadeloupe, on me racontait que l'hôpital, c'était devenu un mouroir, qu'on triait les patients. Il faut imaginer, par exemple, si vous prenez la Guadeloupe, vous avez 400 000 personnes en Guadeloupe, vous avez en temps normal 27 lits de réanimation, une ville comme Rennes, qui a seulement 200 000 habitants, donc la moitié moins d'habitants que la Guadeloupe, on a 200 lits de réanimation. Donc il faut imaginer, ils sont complètement sous-dotés en termes de système de santé. Les gens, ils manquent de tout, ils manquent d'oxygène, ils meurent à la maison du coup, parce qu'on les renvoie à la maison parce qu'il n'y a plus assez de place à l'hôpital. Et en plus de ça, moi, une des choses sur lesquelles j'étais intervenue, donc nous, on s'est opposé à l'état d'urgence sanitaire en disant l'urgence, c'est pas l'état d'urgence sanitaire, c'est justement les moyens sur la santé. Et l'autre truc que moi je disais, c'était que quand même, la première des mesures sanitaires, c'est de donner l'accès à l'eau aux gens. Alors c'est con, hein, mais parce qu'on vous dit tout le temps, lavez-vous les mains, parce que c'est la première des choses à faire contre une pandémie. Et en fait, il y a plein de territoires ultramarins, mais notamment Mayotte, où c'est l'endroit où c'est le plus grave, où il y a 30% des gens qui n'ont pas accès à l'eau, et la Guadeloupe, où là, vous avez des gens qui sont en tour d'eau constant. Ça veut dire que, par exemple, tu as de l'eau le lundi, pas le mardi, le mercredi, pas le jeudi, et même les tours d'eau, ils n'arrivent plus à les tenir. En fait, c'est une catastrophe. Et moi, j'ai même rencontré des gens qui n'ont plus d'eau depuis, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Il y a des mamans qui racontent qu'elles sont avec des nourrissons qui ont quelques semaines, et que pendant 3 semaines, elles vont rester sans eau, quoi. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Mais alors, en temps de pandémie, cette catastrophe qui est d'habitude terrible, enfin, faut imaginer, vous vivez en Guadeloupe, en France, en 2021, votre enfant, il rate en moyenne jusqu'à 1,5 mois de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Pas parce que le professeur, il n'est pas là, pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'école, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Et on n'aurait jamais permis, enfin, ils disent souvent ça, les Guadeloupéens, mais ils ont raison. Si c'était arrivé, par exemple, dans le Var, on n'aurait jamais laissé perdurer une situation aussi longtemps. Bon, bref. Donc moi, je disais, la première des choses, c'est garantir le droit à l'eau pour les gens, pour freiner l'épidémie. Et en fait, je demandais vraiment un truc tout simple, c'est ce que demandent les collectifs et les associations, c'est que pour tous les gens qui n'ont pas accès à l'eau, qu'on leur distribue des bouteilles d'eau. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le dispositif hors sec. C'est ce qu'on fait quand il y a une catastrophe, une tempête, une inondation, etc. Donc le dispositif, il existe déjà. Il suffit juste de rajouter qu'en cas d'urgence sanitaire, c'est la même chose. Et la deuxième chose, c'est que comme les prix sont beaucoup plus chers dans les Outre-mer, d'encadrer le prix des bouteilles d'eau en plastique, parce que les gens, ils se ruinent à acheter de l'eau en bouteille. Et donc, à minima, que dans des temps d'urgence comme ça, on encadre les prix. C'était des mesures d'urgence, quoi. Ben, même ça, ils l'ont refusé, quoi. Et ça m'a foutu dans une colère, mais terrible. Parce que je me disais, aucun d'entre eux, que ce soit les ministres, les macronistes, aucun d'entre eux n'a jamais vécu chez lui sans eau. Aucun d'entre eux ne comprend la galère que c'est d'avoir des seaux partout, de se lever à 2h du matin pour essayer d'avoir un peu d'eau chez soi. Donc voilà, donc c'est une rentrée parlementaire où déjà, dès le premier jour, ils m'ont énervée. Ça commence bien, comme on dit, mais voilà.
C'était quand la rentrée? C'était hier?
C'était hier, ouais. C'était hier, on a fait les questions au gouvernement. Ouais. Alors nous, on a interrogé Blanquer, qui, vous avez vu peut-être, a dit que les familles les plus modestes de notre pays, qui reçoivent 370 euros par an par enfant, donc l'allocation de rentrée, 370 euros pour quiconque a un enfant, franchement, dire que c'est trop, c'est vraiment n'importe quoi. Eh bien, il a dit que tout le monde savait qu'avec les 370 euros et avec l'allocation de rentrée, les gens s'achetaient des écrans plats. Donc, alors pour le CICE, quand ils font des cadeaux aux entreprises, au 440, quand ils font des cadeaux aux plus riches, ils ne se demandent jamais à quoi sert l'argent. Mais par contre, l'argent des pauvres, il faut toujours regarder ce qu'ils en font. Et puis, on avait une deuxième question. Qu'est-ce que c'était? Ah si, parce que vous avez peut-être vu, mais là, ils sont en train de dire qu'ils vont revenir avec la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage en octobre.
Ouais, chômage, c'est donc, sûr. Les retraites, ils disent qu'ils attendent un peu.
Ça. Alors, pour l'instant, ils temporisent un peu. Ouais. Et donc, on les a interrogés là-dessus. Et par contre, chômage, ils trouvent ça formidable de poursuivre les chômeurs et de faire qu'il y ait de moins en moins de gens qui aient accès à un droit, qui sont les allocations chômage.
Ils redisent le temps d'indemnité, c'est ça?
Ouais, ils redisent le temps d'indemnité. Et donc, ça va faire que, déjà dans un pays où il y a un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé, donc c'est énorme, et ben on va avoir encore moins de gens qui ont le droit à une solidarité nationale qu'on a construite pendant
ça,
des années.
Ça risque de toucher 1 million de personnes.
Ouais, c'est ça, un peu plus d'un million de personnes, ouais. Ouais, c'est ça.
C'est quand même pas négligeable, en effet. Surtout en ce moment.
Ah ouais, mais ça va être la catastrophe, hein. Ça va être... Et puis même, c'est le pire des trucs à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, toutes les études ont montré que c'est pas en réduisant les allocations qu'on ramène des gens vers l'emploi, parce qu'en fait...
Non, bien sûr, il faut les formations, il faut plein de choses.
Non, et puis surtout, il faut créer de l'emploi, en fait.
Oui,
parce qu'on a plein de choses. Enfin, on a plein de choses à faire dans notre pays, que ça soit... Je sais pas, par exemple, je te donne un exemple, mais... Là, chez moi, il y avait une manif ce midi, là, des professeurs et des AESH. Les AESH, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les personnes qui vont s'occuper des enfants en situation de handicap. Les AESH, je vais peut-être, je vais pas vous dire tout à fait exactement, parce qu'il faudrait que je revoie ça, mais une AESH, c'est payé à peu près entre 500 et 600 euros par mois. Donc vraiment, enfin, c'est ridicule en termes de salaire. Et donc, ils nous disent, et il y a plein d'enfants en situation de handicap qui n'ont personne pour suivre leur gamin, en fait. Ce qui est juste d'une indignité totale pour... La France est redevenue la 5e puissance au monde. Alors là, on est content. Avant, on était la 6e, maintenant c'est la 5e. Et on n'arrive même pas à faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui accompagne les enfants en situation de handicap dans notre pays. Bon, bref, façon. Et alors là, on nous a expliqué que, vous comprenez, on a du mal à recruter des gens qui font ça. Bah ouais, tu m'étonnes, à 570 euros, ben, je sais pas, vous pouvez même pas les payer votre loyer, vous pouvez même pas faire vos courses correctement, enfin bon. Et du coup, la solution qu'ils ont, mais temporairement, le temps qu'ils arrivent à recruter, c'est pas du tout d'augmenter les salaires, d'augmenter les conditions de travail, de recruter, de former des gens. Non, c'est du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à ces assistantes d'éducation, quoi, en fait, de suivre plus d'enfants que ce qu'elles en suivent, quoi.
Bah oui, voilà.
Donc comme ça, bon, pour un petit temps, et puis ça va dégoûter personne, et puis, enfin, vraiment. Donc par exemple, bah, recruter des AESH, ça serait, eh ben, de la création d'emplois d'intérêt général. Réparer les canalisations d'eau, c'est la même chose. Faire la bifurcation sur le modèle agricole qui tue un paysan, qui fait qu'un paysan par jour se suicide dans notre pays et que tout le monde est empoisonné au glyphosate et autres, bah ça, c'est plein d'emplois qu'on pourrait créer qui sont des emplois qui seraient utiles pour notre pays.
Ouais,
voilà, plutôt que de chasser les chômeurs comme ils le font.
Du coup, c'est quoi les actus de ta rentrée parlementaire à toi? Qu'est-ce que tu veux faire cette année?
Alors, moi...
Cette dernière année de mandat.
C'est la dernière année. Alors bon, la première des choses, c'est qu'on est dans une rentrée spéciale quand même, on est l'année des présidentielles.
Ouais.
Et bon, évidemment, moi j'ai envie que Jean-Luc Mélenchon l'emporte, puisque, enfin surtout le programme que porte Jean-Luc Mélenchon l'emporte, parce que je pense que ça pourrait changer radicalement et qu'on pourrait faire une rupture avec ce système de malheur, donc c'est surtout ça mon actualité. Mais moi j'ai un truc spécifique qui, moi, me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est que je ne supporte plus d'être dans une société dans laquelle, en fait, la moitié des gens ne décident plus de notre avenir commun. En gros, à chaque élection, l'abstention, elle augmente. Et là, ils sont en train de dire que pour les présidentielles, la dernière fois, il y avait 78% de participation, donc quasi 80%, on va dire. Là, ils sont en train de dire qu'il n'y aurait que 60% des gens qui iraient voter. Donc, ça veut dire 40% des gens qui ne vont pas voter. Et alors, quand vous regardez qui ne va pas voter, bah, c'est tous ceux qu'on a dégoûtés de la politique, à juste titre, pour plein de choses. Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, ceux à qui on leur a dit de toute façon rien ne changera jamais. Et donc, qui ne vote pas? Bah, les plus pauvres du pays, les jeunes, etc., etc. Sauf que, en fait, et ça, ce n'est pas un jugement moral, sur, parce que je sais qu'y compris, il y a des gens qui disent bon, bah, ce n'est pas comme ça qu'on va changer la société. Mais en fait, pourquoi moi je tiens à ce vote-là de la présidentielle? Parce que c'est le seul moment dans notre pays où la vie de tout le monde peut changer d'un coup. Parce que tout ce qu'on fait, moi je viens de l'associatif au départ, et moi j'adore ce que j'ai fait en associatif et ce que j'ai continué à faire après. Et c'est génial sur plein de choses, on arrive à bouger des situations, à arracher des victoires, etc. Mais c'est dans un endroit précis, quoi. Et alors le moment où la vie de tout le monde peut changer et s'améliorer, bah, c'est justement l'élection présidentielle. Et du coup, je ne supporte pas l'idée qu'on exclue la moitié des gens de la décision et qu'en gros, on laisse tous ceux qui ont envie que rien ne change jamais, eux, aller voter, choisir généralement les pires, et puis qu'on se retape encore 5 ans de malheur comme ça où, où ben, finalement, la politique, elle s'occupe de nous quand même, quoi.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça?
Ben moi, je dis souvent, quand les dégoûtés partent, il ne reste que les dégoûtants. Donc, en fait, une des choses principales, c'est de faire revenir le grand nombre.
Ouais,
en fait, la seule manière de gagner des choses qui sont ultra majoritaires dans notre société, augmenter le salaire minimum, augmenter les allocations des gens, faire en sorte qu'il y ait donc un partage des richesses dans notre société, faire la bifurcation écologique pour faire face, enfin vous avez vu cet été, hein, mais cet été, rapport du GIEC, donc, qui montre qu'on pourrait être à 1,5 degré d'ici 2030. J'explique juste pour peut-être ceux qui connaissent un peu moins, mais au départ, on avait dit un réchauffement maximal de 2 degrés par rapport à 1880. Là, on est à plus 1,1 degré. Pourquoi on avait dit 2 degrés et finalement après on a dit 1,5 degré? C'est parce que quand on a dit 2 degrés, il y a les petits états qui sont des îles, les états insulaires qui sont venus et qui ont dit « Oh, oh, en fait, nous, avec la montée des mers et tout, à 1,5 degré, on n'existe plus. » Et on sait, et ça c'est l'ONU qui dit ça, qu'on pourrait avoir prochainement, dans les prochaines décennies, jusqu'à 1 milliard de personnes réfugiés climatiques. Donc ça veut dire des zones entières de la planète qui deviennent complètement inhabitables pour toutes les espèces, y compris pour l'espèce humaine. Donc on a vu ça, on a vu les canicules, les inondations, les feux de forêt un peu partout, ce qu'on appelle les points de bascule, des points qui sont irréversibles et qui vont entraîner des changements encore plus rapides que ce qui était prévu. L'Amazonie, c'est la première année où l'Amazonie, elle émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Ou encore le Gulf Stream, vous savez, le Gulf Stream, c'est un système de courant qui amène l'eau chaude en fait, des tropiques vers le nord et qui fait que, notamment, l'Europe a un climat tempéré. C'est grâce à ce courant-là et sur lequel les scientifiques ont alerté là en août en disant qu'il était à son niveau le plus bas depuis quasi 2000 ans et qu'il pourrait même s'arrêter. Et s'il s'arrêtait, ça provoquerait des changements, mais radicaux pour nous. Donc vraiment, on a une forme d'urgence temporelle aussi à vraiment faire une rupture avec ces modèles-là et à créer tous les emplois dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, il y a une autre chose, c'est justement le fait d'être maître de son destin. Une des choses qui est insupportable dans la période qu'on vit, c'est que finalement, depuis 2 ans, on est en Covid. Et en Covid, y a un type, le roi Macron, qui décide pour tout le monde à quelle heure tu as le droit de sortir, qui tu as le droit de voir, combien de personnes tu as le droit de voir, par qui tu dois te faire scanner, à quel endroit. Est-ce que, enfin là, à la rentrée, les parents, par exemple, ils vont se rendre compte que leur gosse, quand il a 12 ans, 13 ans, 14 ans, s'il n'est pas vacciné, par exemple, il n'a plus le droit d'aller faire de la piscine, il n'a plus le droit d'aller faire du foot, il n'a plus le droit d'aller chanter, il n'a plus le droit d'aller faire de la musique. Enfin, c'est insupportable, en fait, ce que ça veut dire. Et donc, du coup, il y a aussi nous, ce qu'on propose, c'est justement la constituante, donc, c'est-à-dire que le peuple réécrive la constitution, c'est-à-dire les règles du jeu de notre vie commune. Donc ça va quand même être le truc qui m'occupe. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Une des choses qu'on fait, que j'avais monté en 2016 et qu'on continue, c'est ce qu'on appelle les caravanes d'égalité des droits. Et en gros, enfin, à l'époque, on avait utilisé un slogan un peu choc, mais auquel moi je crois vraiment, c'était « Je vote, il dégage ». Parce qu'en fait, seule la force du nombre peut faire changer radicalement en fait, les gens qui nous représentent et reprendre la main justement sur notre avenir. Et donc, on avait fait beaucoup de porte-à-porte. Et donc, on va aller voir un par un les gens pour leur dire que ouais, on peut changer en fait. On n'est pas condamné à vivre comme ça, quoi.
Et le chat, vous avez prévu de voter? Vous savez pas? Vous positionnez comment pour le moment? Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas voté ou ont hésité à voter en 2017, par exemple? Parce qu'a priori, on pourrait penser que vous êtes nombreux et nombreuses à vous intéresser à la politique. Et du coup, c'est vrai que de manière un peu stupide, moi je me dis que vous votez tous et toutes, mais c'est pas sûr, il y en a peut-être qui n'ont pas envie de voter. Ouais, donc globalement vous votez, ouais. Premier tour, pas second tour, ouais. Vous, Sandrine. Tiens, d'ailleurs, tu vas aller voter au primaire écolo?
Non.
Non?
Non, mais justement parce que j'ai un problème stratégique avec la primaire. Je t'explique pourquoi.
Ok.
En fait, la primaire, donc c'est l'idée de... je sais pas si vous avez suivi, du coup, c'est la primaire des écolos en ce moment.
Le 12 septembre et puis il y a un deuxième tour, je crois.
Non, ouais, en fait, le 12, c'est la limite des inscriptions.
Ah oui, pardon, c'est le 19. 19, ouais. 19, ouais.
Et en fait, en ce moment, il y a pas mal de débats, si vous voulez regarder, si ça vous intéresse. Donc, avec 5 candidats. Le problème, c'est qu'en fait, on en fait des enjeux de personnes. Mm-hmm. Et on parle... Là, ils ont augmenté un peu, mais ils étaient à 35 000 inscrits il n'y a pas longtemps. Là, je crois qu'ils ont augmenté, je crois qu'ils sont à 50 000 à peu près, mais bon, je suis pas sûre, j'ai peut-être des bêtises, faut regarder. Mais en gros, moi, ce qui me dérange, c'est que parler aux gens qui s'intéressent, en fait, alors que l'enjeu principal, c'est la participation, je trouve qu'être à 8 mois d'une élection présidentielle, alors que moi, je pense qu'une des manières de faire participer les gens, c'est de faire parler programme, en fait, nous dire, nous on veut le droit de révoquer les élus, donc de pouvoir les faire partir. Mm-hmm. On veut, je sais pas, l'avortement dans la Constitution, on veut le droit à l'eau dans la Constitution comme interdiction de marchandiser l'eau, etc., etc. Et ben, je trouve que c'est comme ça en fait qu'on porte la présidentielle. Et je trouve que la primaire, c'est le piège de la primaire, c'est l'entre-soi, quoi. Et après de se retrouver, enfin, je sais pas si tu l'as entendu le premier débat.
J'ai entendu quelques trucs, ouais.
Bah ça commence, bon, ils ont pas eu de chance, c'était.
C'était un événement, j'intervenais.
C'était un tirage au sort. Et le premier qui prend la parole, il dit de toute façon, moi je voudrais pas être soutenue par Sandrine Rousseau parce qu'elle est trop à gauche. Et moi je soutiens l'écologie du centre. Bah du coup t'es là, mais pourquoi, enfin.
Ouais, ça commence bien. Ouais.
Enfin ça fait. Et du coup, enfin, moi je crois à la stratégie du grand nombre, quoi, tu vois. Voilà.
Ouais,
donc
bien
non,
sûr.
J'irai pas voter, mais je respecte tout à fait ceux qui s'inscrivent dans ce
les
processus.
Gens du chat, vous avez voté pour la primaire écolo? Moi, il y a un truc qui me dérange. Alors, je sais
peux
que
juste
c'est
répondre
que...
à une question
ouais,
et
sûr.
Après, je te...
Ouais, ouais, carrément.
Parce que quelqu'un me dit, si Sandrine Rousseau gagne, c'est quand même pas mal pour la France insoumise. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Sandrine Rousseau, elle assume les ruptures qu'il faut avec le modèle, quoi.
Oui, c'est
ça. En gros... En gros, tu vois, pour répondre à cette question-là, c'est en termes de combat d'idées dans la société, c'est intéressant parce que ça montre que, en fait, la majorité sociale de notre pays, moi, je crois à ça, vu le système dans lequel on est prêt, en fait, à faire cette rupture-là. D'autant plus qu'on est dans un moment où, si on ne crée pas ces ruptures-là, c'est vraiment une continuation d'un malheur pour le grand nombre qui est terrifiante, en fait, et qui a une envie d'autre chose. Et pour le coup, Sandrine Rousseau, elle est claire sur... y a une rupture avec le modèle capitaliste à faire.
Bien sûr.
Et donc, ça, en ça, c'est intéressant, ça, c'est clair. Mais j'ai quand même ce problème stratégique sur les primaires, alors que moi, je pense que, justement, l'idée, c'est vraiment de faire que le peuple il s'empare de cette élection, quoi.
Ouais. Et si jamais, admettons, Sandrine remporte l'élection, est-ce que, la primaire écolo, est-ce que vous envisagez d'ouvrir des discussions avec LFI?
Bah, de toute façon, les discussions, elles existent déjà. Mm-hmm. Elle est venue à nos universités d'été.
Ouais.
Moi, j'avais fait un débat avec elle sur Reporter. Il y a Éric Piolle aussi qui est venu aux universités d'été. Donc ces discussions, elles existent,
ouais,
et elles vont continuer,
quand même,
évidemment,
ouais.
elles continuent. Donc après, oui, on verra. De toute façon, on attend de savoir... ils ont choisi un processus qu'on respecte et puis on attend de savoir ça. Après, moi, je dis... je suis un peu bourrine là-dessus, mais je dis on a un candidat qui est écologiste à l'élection présidentielle déjà et il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, quoi.
Oui, oui, bah c'est aussi ton rôle que de le soutenir. On peut comprendre, on peut comprendre. Moi, il y a un truc qui me gêne un peu. Merci, Mathilde, je vais te tenir. Il y a un truc qui me gêne un peu. Alors, je sais que les copines écolos ne vont pas être contentes de m'entendre dire ça, mais je le dis quand même. En fait, la primaire payante, ça me gêne de ouf. Alors, je comprends hein, pourquoi, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent, ceci, cela, mais rien que le fait qu'on soit obligé de payer symboliquement même 2 euros. Parfois 2 euros, c'est quand même beaucoup pour qui que ce soit, en fait, enfin pour certaines personnes. Ça reste une dépense, ça déjà, faut pas l'oublier. Et surtout, enfin, symboliquement, payer pour voter, moi j'ai du mal, quoi. Enfin,
ouais,
ça me dépasse, quoi. Je supporte pas ça. Et j'avoue que j'ai vraiment du mal à me convaincre, en fait. Enfin, je pense que je vais le faire, je pense que je vais voter, et je sais déjà pour qui je vais voter. Mais sur le principe, ce sens, presque, c'est quand même super important. Alors après, j'y réfléchissais du coup cet après-midi. Je partage un peu mes réflexions avec vous pour voir ce que vous en pensez. Mais je me disais, est-ce que ce serait pas finalement à l'État, dans une certaine mesure, tu vois, d'organiser les primaires pour que les gens, je veux dire les votants, les électrices et les électeurs, n'aient pas à débourser de l'argent, parce que c'est quand même dingue, quoi.
Bah oui, mais en fait, ouais, mais du coup, tu rentres un peu dans un modèle américain si tu fais ça. Tu vois, dans un modèle de... En fait, tu considères que
c'est
le modèle dans lequel...
C'est une procédure institutionnalisée.
Voilà, exactement.
Sorte, ouais.
Et du coup, tu laisses pas aussi la... En fait, le problème, tu vois, par exemple, Sanders, il s'est retiré parce qu'il était dans ce système-là. Alors que Sanders, il allait contre Trump. Moi, je suis sûre que Sanders y gagnait, tu vois. En fait, le problème des primaires, je vais te dire le problème de fond que j'ai avec ça, au-delà du fait que je pense que le moment, il n'est pas à l'entre-soi, au-delà d'un problème stratégique. Le problème de fond que j'ai avec les primaires, c'est qu'en fait, quand tu regardes la sociologie des gens qui vont aller voter aux primaires, on va pas se mentir, les quartiers populaires, ils vont pas aller voter aux primaires. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle les CSP+, donc des gens qui ont plutôt fait des études, sont plutôt de centre-ville, et en fait, vont pas faire tout à fait les mêmes choix que ce qui se passe à une élection présidentielle. Donc, en fait, on fait quelque chose en nous disant, Il faut qu'on...
Après,
qu'on...
il peut y avoir des militants. Il y a quand même des militants des quartiers populaires aussi.
Oui, oui, non mais oui, il existe des militants des quartiers populaires, mais je veux dire, heureusement. Mais...
Ouais, les militants votent aux primaires, généralement.
Oui, mais en fait, regarde, enfin... Quand tu vas reprendre ta composition sociologique,
ouais,
ça veut dire que tu vas avoir tendance, je vais le dire très, de manière très claire, mais à prendre quelqu'un comme candidat qui est moins clivant, à prendre quelqu'un qui ressemble un peu plus aussi à des CSP+, tu vois. Et je trouve que, y compris là-dessus, il y a aussi un souci, tu vois. Parce que par exemple, moi, j'aimerais pas être dans un système américain, ou états-unien plutôt, pour être tout à fait exact. Ou par exemple, imaginons que tu es dans un moment aux États-Unis. Bon, bah Jean-Luc Mélenchon serait rentré dans une primaire avec les démocrates. Donc, je sais pas, on aurait mis de Anne Hidalgo à Yannick Jadot, à Sandrine Rousseau, à Jean-Luc Mélenchon, à je ne sais qui. Et en fait, c'est parce que c'est pas des enjeux de personne. Je comprends, hein, y a des gens qui me disent le caractère de Mélenchon, j'aime pas. Moi, je leur dis, bah, votez pour lui, puis comme ça, on fait la constituante, il partira, tu vois. Mais il n'empêche que... Mais n'empêche que... Ah ouais, bah si, 6ème République...
Tu penses qu'il part?
Bah, normalement, on est dans une...
Il se fait élire pour dégager.
Bah, ça prend du temps, hein. Un processus constituant, ça prend 2 à 3 ans.
Oui.
Parce qu'on a... Donc, mais oui, après, bah oui, il a 70 ans, donc je veux dire que...
Ouais.
Quand il dit qu'il n'est pas là pour faire carrière, c'est vrai, tu vois. Après, il ira faire d'autres choses, il ira écrire sur des choses, bon bref, on s'inquiète pas pour lui, ça. Mais oui, l'idée de la 6ème République, c'est de changer aussi le modèle, de sortir du présidentialisme, en gros.
Ouais, intéressant.
D'avoir un truc beaucoup plus parlementaire. Avec des parlementaires qui ne sont pas godillots cette fois-ci, hein. Parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. Mais donc, ce que je disais, regarde, Jean-Luc Mélenchon est dans cette primaire-là. Et en fait, c'est pas qu'une question de personne. C'est pas que moi, j'aime plus Jean-Luc Mélenchon ou je ne sais qui. C'est aussi une question vraiment de programme. Ça veut dire la constituante, qui pour moi est un point extrêmement important, que les gens puissent réécrire leurs propres règles du jeu. Bon, bah, on l'abandonne ou on l'abandonne pas? Le rapport à l'Europe, qui n'est pas un petit truc quand même.
Ouais.
Moi, je crois que c'est mentir de dire qu'on peut faire une politique écologique, sociale, sans sortir des traités européens, et notamment sur cette question des traités de libre-échange, vous savez, le grand déménagement du monde, on en a plein. Bah, par exemple, ça, ce n'est pas un petit sujet.
C'est clair.
Et en fait tu vois, et ça, on n'est pas sur des questions de personnes. Ouais, au-delà d'une question de personne qui est bon, j'aime plus un tel ou un tel humainement, tu vois.
C'est quand même une réalité, tu vois. Je disais, pardon, merci. Il y a, je sais pas si vous avez vu les gens, il y a une étude fort intéressante qui est menée chaque année par la Fondapol, la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne, Le Monde et je sais plus quel autre média, peu importe, qui s'appelle Les fractures françaises. Et il y a Le Monde, du coup, qui a publié quelques résultats de cette étude, super intéressant, notamment sur les aspects de défiance en politique, etc. Et il était dit, et c'était assez intéressant comme analyse, qu'en fait, il y a une espèce de défiance qui est croissante à l'égard des partis politiques en France. Je crois qu'il y a genre 16% des personnes qui ont été interrogées par l'étude qui ont confiance en partis politiques, on se fait pas lourd. Et du coup, que ça renforce une certaine personnification, tu vois, de la stature présidentielle et du pouvoir. Du coup, il faut quand même avoir des personnes qui plaisent, quoi, dans tous les cas. Moi aussi, je suis d'accord, j'adorerais que les gens votent pour un programme, mais je crois qu'il n'y a pas que ça, en fait.
Bah, oui, c'est clair qu'il n'y a pas que ça. Enfin, c'est con à dire, mais moi, le mauvais caractère de Jean-Luc, ça me... Enfin, d'ailleurs, c'est mauvais caractère, ça dépend des... mais en vrai, moi, je trouve ça rassurant d'avoir quelqu'un qui ne va pas se plier face à la moindre difficulté, quoi. Enfin, lui, face à la finance, je veux te dire qu'il ne va pas... Enfin voilà, moi je trouve ça aussi rassurant.
De ne pas faire une Hollande, quoi.
D'avoir confiance en, tu vois, dans le collectif humain qu'on est. Mais en vrai, en fait, par exemple, dans la primaire des Verts, si on reparle de ça, quelles sont les différences de fond fortes, par exemple, je ne sais pas, sur Piolle et Rousseau, tu vois, c'est quand même des choses, en fait... En fait, c'est clair que la 5ème République, elle l'amène vers des trucs de personnification extrêmement fortes.
Après, moi, je pense qu'il y a quand même des différences. Tu vois, par exemple, Sandrine, pardon, c'est quand même une grande figure du féminisme en France et de l'écoféminisme particulièrement, ce qui n'est pas le cas d'Éric Piolle.
Ouais.
Qui se distingue déjà au moins, je pense, à ce point-là. Sandrine Rousseau, elle a quand même eu l'avantage de quitter la politique à un moment donné pour y revenir encore plus forte après une presque une carrière militante, disons, pendant des années. Donc elle a un réseau qui est différemment constitué. Je pense qu'elle parle. Alors après, oui, il y a des convergences. Ils sont tous les deux plutôt marqués à gauche dans la tendance du parti, disons. Mais moi, je vois encore quand même des différences ici, au-delà des personnalités. Je pense le discours aussi. Je le trouve plus inclusif, celui de Sandrine, je trouve. Un peu plus que celui d'Éric Piolle. Je dis pas qu'Éric Piolle est mauvais, pas du tout, mais...
Ok, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le féminisme, par exemple,
qui est un axe super important. Surtout pour vous,
mais par exemple, tu vois, regarde notre groupe parlementaire. Nous, on est 17 dans le groupe parlementaire. Mm-hmm. Et il y a plein de gens, tu vois, qui disent « Ah, moi, j'aime beaucoup comment François Ruffin fait. Mm-hmm. » D'autres qui vont dire « Moi, j'aime beaucoup Adrien Quatennens, Mathilde Panot, je sais pas, tu vois. » Mais n'empêche que c'est normal, il y a des affects avec les gens aussi, tu vois. Et puis, y compris avec les gens qui te représentent, avec les mots qu'on utilise, mm-hmm. les... Bon. Mais en vrai... en 4 ans et demi de mandat, on n'a jamais voté différemment. Et ce n'est pas parce qu'on a un chef tyrannique ou je ne sais quoi. C'est parce qu'on est vraiment convaincus de... À la fois parce qu'on a une base programmatique très forte, mais aussi parce que quand on n'est pas sûr d'un vote, on a vraiment la discussion pour se convaincre les uns les autres et arriver à une position qui nous va toutes et tous, quoi, tu vois. Et je trouve ça intéressant, en fait, de le faire comme ça. Et alors, du coup, quel intérêt on aurait à faire une primaire sur quoi? Sur moi, je te propose la constituante truc ou...
Vous n'avez pas besoin, je pense.
Ouais.
Non.
Non, et puis vraiment, je pense que l'enjeu principal, c'est comment tu fais pour que cette élection présidentielle, elle se fasse pas voler, que le vote populaire soit pas effacé de cette élection présidentielle. Vraiment, moi, je pense que c'est...
Accrocher les gens, mais tu sais, c'est un sujet quotidien, quoi.
Ouais. Et juste, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit commentaire sur le fait que l'Europe, elle était mieux disante sur l'écologie que la France. En fait, ça dépend sur quoi. Dans un sens, t'as raison, parce que des fois, il y a des directives sur lesquelles des règlements, on va dire, sur lesquels on s'appuie pour mener des combats. Mais en vrai, en général, la manière dont est organisée l'Union européenne est notamment beaucoup basée sur le libre-échange. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une vingtaine de traités de libre-échange qui sont en négociation. Donc, vous avez peut-être entendu parler du CETA qui est déjà mis en place entre l'Union européenne et le Canada. Mais il y en a un entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors, nous, on enverrait des voitures. Donc, en gros, c'est un débouché au marché allemand. On enverrait des voitures à des milliers de kilomètres. Donc, écologiquement, c'est une catastrophe. Et eux, ils nous renverraient du lait en poudre. Alors que les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre de leur travail en France, et qu'on ferait faire un trajet de lait en poudre à des centaines de milliers de kilomètres de l'Australie à l'Union européenne. Vous voyez un peu ce que ça fait comme trajet. Donc c'est une absurdité totale, et ça, c'est au cœur même du projet européen, ce truc de on vous dit mais c'est formidable, on échange, on est amis avec les peuples. Ben justement non, l'amitié avec les peuples, elle se fait pas sur ces questions là parce que en fait, ça hyper spécialise des pays et avec des catastrophes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vraiment pour des gens qui n'arrivent plus à vivre correctement de leur travail, qui n'ont plus d'agriculture vivrière, c'est-à-dire d'agriculture pour se nourrir, mais que de l'agriculture pour l'export. Et donc, il faut absolument sortir de ce... Enfin, rompre avec ce modèle-là. Et avoir une relocalisation, par contre, avec un partage des connaissances, qui est la manière, justement, de faire de l'internationalisme, qui est extrêmement important aussi, quoi.
Ouais, tout à fait. Pour revenir un peu à l'actu parlementaire, si ça ne dérange pas, Mathilde, moi, je voulais savoir, vous avez un calendrier qui a commencé à être défini, là, un ordre du jour, pour les jours à venir? Quels sont les textes qui vont être sur le tapis, là, à court terme?
Alors, en fait, là, on est revenu exceptionnellement pour l'état d'urgence outre-mer, parce qu'il fallait le voter maintenant. Mais après, on va recommencer vraiment l'hémicycle autour du 20 septembre. Mmh. Alors, on commence par un texte dont je ne me rappelle plus exactement le nom. Mais alors là, oh, surprise, à votre avis, sur quel thème est ce texte ?
La sécurité.
Antiterrorisme, sécurité. Enfin, juste, je dis ça un peu en rigolant, non pas parce que je prends ce sujet non pas au sérieux, pas du tout, mais parce que on doit être à deux lois antiterroristes votées par an depuis maintenant une dizaine d'années. Et que, en fait, on n'analyse jamais quels sont les effets de ces lois antiterroristes. Et la tendance générale qu'ils ont, c'est en fait, on enlève des moyens financiers aux moyens humains de renseignement, ce qui est extrêmement important. On a vraiment besoin d'avoir des gens qui regardent les échanges, d'avoir une intelligence humaine derrière.
On le voit avec le procès actuel.
Exactement, on le voit avec le procès qui a commencé aujourd'hui. Mais alors que eux, ils ont plutôt une tendance à faire la surveillance généralisée à tout va de tout le monde. Et en fait, ça, c'est au-delà d'être liberticide, d'être une atteinte à nos libertés énormes, c'est complètement contre-productif en termes de sécurité nationale. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous avez un flot d'images et que vous ne savez pas quoi regarder, ça ne sert à rien à part à attaquer les libertés, quoi. Et donc, du coup, nous, on demande plutôt un renforcement et une vraie politique antiterroriste et de sécurité et qu'on arrête de faire des lois plus restrictives les unes que les autres jusqu'à cette loi sécurité globale là, dont vous vous rappelez souvent. Qui a d'ailleurs été un merveilleux moment populaire de mobilisation, notamment de la jeunesse. C'était assez incroyable. Et je pense que sur les libertés, il va falloir encore se battre cette année parce qu'on commence par ça.
Bah, tu fais bien de dire, tiens, ça me fait une petite transition toute trouvée. Tu penses que le mouvement anti-pass va s'accentuer et il pourrait éventuellement être rejoint par un mouvement un peu plus contestataire, plutôt contre Macron ? Notamment s'ils annoncent effectivement l'enterrinement de la réforme du chômage et peut-être la reprise de la réforme des retraites.
Bah alors faut espérer hein, qu'on ait. Enfin, parce que la première fois la réforme des retraites, je veux le dire ici parce qu'on ne le dit pas assez souvent, on a gagné sur la première réforme des retraites. Alors on n'a pas l'impression d'avoir gagné parce qu'il y avait le Covid, mais en fait il n'y aurait pas eu une mobilisation populaire ultra forte de tous les secteurs pendant deux mois avant, elle serait passée avant la réforme. Et donc, il faut bien comprendre que du coup, vos retraites sont indexées, sont reliées à la situation économique du pays. Vous avez vu la situation économique dans laquelle on a été pendant un an et demi. Donc, il faut bien imaginer qu'en plus de centaines de milliers de retraités pauvres dans notre pays, on aurait encore eu des gens encore plus pauvres. Et ça, c'est grâce à la mobilisation populaire qu'elle n'est pas passée avant le Covid. Mm-hmm. Donc, s'ils veulent mettre la réforme de l'assurance chômage, qui a déjà été retoquée, deux fois par le Conseil d'État, et j'espère qu'on l'aura encore une troisième fois. J'espère bien qu'il y aura une mobilisation populaire à la hauteur de ça. Alors après, la question, c'est aussi comment est-ce que tout ça va s'organiser. Nous, on dit souvent aux syndicats, avec amitié, parce qu'on a plein de potes syndicalistes quand même, mais de leur dire d'arrêter, par exemple, de faire des manifs les mardis. Je sais pas, si t'as vu, il y a une grande date qui est annoncée le 5 octobre. Arrêter de le faire en semaine parce que en semaine il y a plein de gens qui peuvent pas, ils peuvent pas soit faire grève, soit perdre une journée de travail. Et donc, si on veut avoir quelque chose le plus massif possible, c'est justement ce que font d'ailleurs les antipass sanitaires, c'est-à-dire le samedi, ce que faisaient les gilets jaunes aussi, et d'avoir vraiment un moment où tout le monde peut venir et s'agréger à ces manifestations-là parce que c'est par le nombre qu'on peut réussir à faire reculer des choses. Alors sur le pass sanitaire, on va voir comment ça évolue. Bon, le problème, c'est que les manifestations ont été très infiltrées par l'extrême droite, mais notamment parce que, en fait, tant qu'il n'y aura pas un grand nombre de gens qui viennent, du coup, ça donne de la force à un petit noyau. Il y a plein d'anciens qui vont tous les samedis.
Ouais.
Nous, on a dit qu'on était très clairement contre le pass sanitaire. On n'est pas contre le vaccin, mais on est très clairement contre le pass sanitaire. Et le fait de scanner toute la population constamment... Surtout quand on voit que, par exemple, les purificateurs d'air qui permettent d'éliminer toute une partie des bactéries dans l'air, 92%, je crois, ne sont pas mis en place dans les écoles, alors qu'il y a plein d'endroits où ils le mettent, qu'on est encore dans un moment où on a enlevé 800 millions d'euros à l'hôpital public en 2021. Enfin, Macron a enlevé, qu'il y a 13 hôpitaux dans lesquels ils ferment des lits. Donc, en fait, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est mesure autoritaire plutôt que mesure sanitaire.
Oui,
et donc, en tout cas, nous, on continuera à se battre contre ça. Je sais pas comment vont continuer ces manifestations-là, mais je pense qu'on va quand même avoir une rentrée assez chaude en actualité sociale.
Ouais, c'est clair. Il y en a qui demandent,
parce que c'est quand même un peu la, une petite actu politique de la semaine. Qu'est-ce que tu penses de la remontada? Tu peux en parler? Est-ce que c'est une menace pour vous d'avoir un candidat de ce type Mongo?
Non, non. Nous les deux personnes, même pas, les deux programmes qu'on veut abattre, je dis abattre vraiment, sur lesquels on veut tourner la page de notre pays, c'est Macron et Le Pen. Montebourg, bon, au-delà du truc qui a fait un peu rire les gens à dessein, quoi, d'avoir un slogan, la remontada, pour le Made in France, et ça fait un peu rire, et ça a fait rire les gens, c'est normal. Mais non, mais avec Montebourg, il y a des choses qu'on peut partager, par exemple sur la relocalisation de l'économie, il y a des idées qu'on peut partager. Après, je crois qu'on ne porte pas la même idée justement de la 6ème République, du partage des richesses. Par exemple, Montebourg s'était réjoui du CICE. Bon, nous, on trouve que le CICE, le crédit d'impôt, donc des cadeaux donnés... Aux grandes entreprises pour créer de l'emploi, qui en fait détruit de l'emploi ou crée de l'emploi à des coûts extrêmement, ou à des prix extrêmement exorbitants. Bon, bah ça, c'est des choses avec lesquelles on va être en désaccord. Mais bon, de toute façon, on est dans un moment quand même d'atomisation du monde politique. Il faut voir le nombre de candidats qu'il y a à la présidentielle. Et je crois, alors peut-être que c'est un peu immodeste de ma part, mais je crois que nous, on essaye en tout cas d'être un point de repère aussi. Avec des choses sur lesquelles on a une certaine constance.
Oui, c'est vrai que vous êtes finalement ceux qui se déchirent le moins en interne.
Et puis surtout, nous on a choisi entre l'Union populaire et l'Union de la gauche. On a choisi, nous on pense que on y arrivera si les gens, quel que soit ce qu'ils aient voté avant, quel que soit ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils pensent, s'ils sont d'accord sur le programme, qui viennent et qui participent à réouvrir l'horizon.
Le chat qui demande combien de candidats à gauche. 5 pour le moment. On a Jean-Luc Mélenchon.
Ouais.
On a une écolo, on va voir. On a Anne Hidalgo. On a Arnaud Montebourg et Poutou.
Attends, il y a que ça. Attends.
Je crois. Vous en voyez d'autres à gauche, hein. Roussel, ouais, bien vu.
Ah oui, bien vu, ouais. Pardon, on l'a oublié.
6, désolé. Ouais. Désolé.
Le fol, c'est vrai.
J'avoue.
Non, mais il y en a plus que ça, même, je pense. Hein, parce que...
Oh là 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 là. Ouais, ça va être quelque chose. Arthaud, ouais, certainement. Hein.
Ouais, je pense aussi.
Ouais.
Puis après, on verra.
Un peu, d'ailleurs.
Ouais, non, en ce moment, pas trop.
Tu vas à la fête de l'humain?
Ouais.
Tu veux voir Valérie Pécresse?
Non, je vais faire deux débats. Un sur justement les quartiers populaires.
Yes.
Avec le collectif Passe en nous. C'est un collectif de quartiers pop, justement. Sur la gauche et les quartiers populaires, c'est ça le nom. Et puis un autre, c'est les jeunes communistes du Val-de-Marne qui m'ont invité sur comment fait-on face à l'extrême droite.
Chambé. Voilà. Intéressant. Et les gens, vous allez à la fête de l'UMA pour celles et ceux qui ont prévu d'être à Paris ce week-end? Pécresse à l'UMA. Oui, Pécresse va à l'UMA.
Elle fait un débat avec Roussel.
Ouais, justement. Ça va être intéressant, ceci dit.
Ah oui, il y a Anas aussi qui est candidat.
Les gens, pas les moyens. Ouais, je sais pas combien ça coûte. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, moi. Vous savez combien ça coûte? Il y a quoi en concert, d'ailleurs?
J'ai pas regardé.
On va regarder ça. Est-ce que les débats sont retranscrits? Je sais pas.
Ouais, il y en a toute une partie, oui. Notamment ceux qui sont sur l'Agora, mais je sais pas s'ils sont tous, à mon avis il y en a qui n'ont pas forcément peut-être les moyens techniques de le faire, donc à mon avis ils ne sont peut-être pas tous retransmis, mais il y en a une partie oui.
J'avoue, toi t'interviens quand du coup?
Samedi 14h et samedi 16h30.
Ok,
je vais passer un petit après-midi débat.
Je dois bosser, mais c'est pas grave. Ouais, 30€ les 3 jours, ça va, c'est honnête en effet. Mais bon,
ouais,
après, il faut les avoir.
Le
et puis il faut les avoir aussi, quoi.
Ah bah ouais, c'est clair. Hein.
Trop loin du 15e, n'importe quoi. 30€, il y a les merguez. Non, les stands, il faut acheter à manger en plus. Hein.
Ouais.
Mais ça comprend les concerts, en revanche.
si je me trompe.
Oui.
Ça, c'est cool. Ouais. Moi, j'ai vu des super concerts à la Fête de l'Humain. C'était mes meilleurs concerts.
Ah bah ouais, ouais.
De ouf.
Ah bah c'est un chouette.
C'est pour ça que j'ai bien envie de voir.
C'est un chouette festival, quoi.
Vous savez, les gens qu'il y a en concert.
Souchon Trio.
I am. Yes. Souchon Trio, ok. Qui d'autre? I am stylé. Ah, moi, j'avais vu Patti Smith quand même.
Ah, ça c'est
Pete Doherty. Oh là là, j'avais vu. Ouais, c'était ouf. Le Fofora, ouais, pas mal aussi.
Passe sanitaire, je sais pas.
Bah
à
ouais,
mon avis, je pense
hein,
vu la taille de l'événement.
Ouais, ceci dit, il l'a Akhenaton, son passe sanitaire.
Ah bah, maintenant qu'il a le Covid, tu sais, il a 6 mois de.
Ah ouais, c'est vrai, ok, donc il l'a.
Ouais. Mais ça, c'est. Enfin, tout est absurde là pendant ce.
J'avoue, le retour de Trio, c'est drôle. Bonne année 2002, les gens. Dionysos, j'en mets. Ah ouais, c'est quand même.
C'était dur à l'époque.
Drôle. Bon, je vais regarder le line-up, mais je pense que je vais tenir. Benjamin, Noyau de Nota Bene.
Ah oui, passe sanitaire confirmé par Roussel, bien vu. Donc il y a bien passe sanitaire.
Ouais.
Donc voilà, donc je disais, pour terminer de répondre à ta question présidentielle cette année, la question de l'eau, parce que dans le Val-de-Marne, on a la chance de pouvoir sortir de la gestion avec Veolia et de revenir en régie publique. Donc il y a une votation en ce moment, donc ça, je m'occupe de ça.
Génial.
J'essaie de faire voter au maximum. Si vous habitez dans le Val-de-Marne, à Ivry, au Kremlin, à Vitry, à Gentilly, à Arcueil, et puis dans pas mal de villes des Juifs, vous pouvez voter pour revenir en régie publique. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
C'est intéressant ça.
Ouais.
Toi, il y a des textes là, il y a encore une niche parlementaire pour LFI cette année. Vous avez déjà des textes un peu
On est en train de préparer la méthode sur comment est-ce qu'on s'y prend.
Ouais. Il y avait quoi? Il y avait le texte de Éric Coquerel sur lutte contre le trafic de drogue.
Ouais, il y a ça qui est en attente.
Ouais.
Et puis après, de toute façon, on en a plein, on en fait tout le temps plein.
Toi, il y a un texte que tu portes?
Bah, je sais pas encore.
Pas encore.
Là, on est en train de. Comme on vient juste de se revoir là, avec le groupe, on discute de ça la semaine prochaine.
Ok.
Moi, la dernière fois, je portais celui sur les profiteurs. Taxer les profiteurs de crise. Ce qui avait fait hurler les macronistes. Parce que taxer les riches, ça, il faut pas. Enfin, ça leur sort des. Ils trouvent ça horrible et violent.
Bah, ouais, non, bah, c'est sûr.
Donc voilà. Mais c'était bien marrant à faire. Je m'étais bien amusée. En plus, je l'avais regardé parce que j'avais relu tous les débats en 1916.
Wow.
Ouais, il y avait eu une taxe qui avait été faite, adoptée à tous les députés, sauf un, qui justement taxait tous ceux qui avaient profité de la crise, c'est-à-dire les industries d'armement, etc., en disant, bah c'est normal, c'est un effort de solidarité nationale. Enfin, tout le monde était d'accord. Le ministre, il disait même, il n'y a même pas de débat à faire, il n'y a même pas à montrer toute la pauvreté et le malheur qu'il y a dans le pays pour comprendre que ceux qui se sont enrichis sur ce malheur-là, il y a un truc indécent en fait dedans. Et donc ils avaient fait une taxe et il y avait un seul député qui avait voté contre à l'époque et bien ce seul député représente maintenant la majorité de l'Assemblée nationale avec les macronistes. C'est un peu triste mais bon.
Ouais. Il y a quelqu'un qui demande si tu as travaillé avec le groupe LRM sur la dépénalisation. C'était une mission d'information, hein. Il n'y avait pas qu'LRM, il y avait LR aussi. D'ailleurs, c'était Robin Reda qui présidait la commission, la mission.
Ouais, c'est possible, ça je me rappelle.
Robin Reda qui est LR, saviez-vous? C'est, en fait, c'est, c'était une. Il y a aussi Liberté et Territoire.
Ouais, alors Liberté et Territoire, c'est un groupe qui est dans l'opposition et qui avait fait un texte justement sur la légalisation.
Porté par Michel Lambert.
C'est pas juste. On n'est pas pour dépénaliser, on est pour légaliser.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus la légalisation
en effet. Mais et en fait, nous, on avait voté pour. Et on s'était battu pour. Mais bon, c'était pas passé.
C'était quand il y avait une. C'était le ministre. En même temps, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez quand même, les gens. Alors je me trompe peut-être sur les chiffres, mais toi, tu vas savoir mieux que moi. 80% au moins des textes qui passent à l'Assemblée nationale sont des projets de loi. Ça veut dire que c'est des projets qui sont d'initiative du gouvernement et pas des parlementaires. Donc du coup, ça veut dire que 80-20, c'est ça, non, à peu près les chiffres?
Je pense même que c'est
peut-être
en fait,
90,
de temps en temps,
surtout en ce moment.
En fait, de temps en temps, ils donnent un texte à un député que le gouvernement a écrit en disant c'est toi qui vas le porter. Comme ça, c'est pas le gouvernement, mais c'est un député, mais en fait, c'est porté par le gouvernement. Mais ouais, l'initiative parlementaire qui appartient vraiment aux parlementaires, elle est extrêmement faible. Enfin, c'est dramatique. Et en fait, le problème, c'est que l'Assemblée nationale ne représente pas le pays, en fait, aujourd'hui.
En plus,
parce que, par exemple, la légalisation, c'est quelque chose qui est majoritaire dans le pays. L'augmentation du SMIC, c'est majoritaire dans le pays.
Augmentation du délai d'avortement.
Augmentation du délai de l'avortement, c'est majoritaire dans le pays. Le droit de mourir dans la dignité, c'est majoritaire dans le pays. D'ailleurs, ça a même été majoritaire à l'Assemblée, mais ils ont arrêté avant. Je sais pas, il y a plein de choses. Reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, c'est majoritaire dans le pays. Mais comme cette Assemblée ne représente pas, enfin ne ressemble pas à la majorité sociale du pays, bah, du coup, on se retrouve avec des textes qui sont ultra majoritaires chez les gens et qui, malheureusement, passent à l'Assemblée. Mais on fait la bataille, quoi. Puis, et puis la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, vous pourrez changer toute l'Assemblée nationale. Donc, n'hésitez pas à bien choisir.
Et petite question pour le chat. Si d'ici à la... au changement donc de majorité d'ici aux élections législatives et à l'élection présidentielle, il y avait une réforme que vous voudriez voir adoptée, ce serait laquelle? Genre une réforme. Qu'est-ce qui pour vous est fondamental et quelle serait la plus grande réforme qu'il faudrait adopter avant la fin de cette mandature?
S'il y a eu je réponds juste sur l'événement sur le Mexique, en même temps que vous répondez justement sur la question que Léa vous a posée. Oui, il y a une super nouvelle au Mexique. L'avortement a été dépénalisé au Mexique. Et c'est à un moment où l'avortement est attaqué de partout. C'est une première victoire pour les Mexicaines qui est hyper importante et dont on peut se réjouir.
Absolument.
Annexer l'Allemagne, quelqu'un dit. N'importe ça se dit pas.
Arrêt de l'obligation vaccinale, l'ISF, quelque chose de réaliste, la gauche, législative, impossible, ça vient. Refaire un vrai code du travail. Interdire un élu de propager des fake news, il faut faire ça.
Il va falloir interdire Blanquer avec.
C'est ça, avec toutes ces conneries.
Ces crampes-là.
Attends, pas que.
Ah ouais, il y en a plein.
Oh là là. ISF,
Il y en a plein qui disent l'ISF.
Semaine de 4 jours, c'est bien ça.
Ouais.
C'est un vrai sujet. Très intéressant. Trop de lois. Est-ce que tu trouves que t'as voté trop de lois cette année? Enfin, ces 4 dernières années, pardon.
Ouais, parce que ça... Enfin, c'était quand même... Macron, il avait une technique... il a une technique un peu à la Sarkozy, quoi. Quand je dis une technique à la Sarkozy, c'est qu'on envoie des balles de partout.
Ouais.
Une régression extrêmement forte dans tous les secteurs, très violente, très rapide. Et du coup, des discussions sur des textes qui se font dans n'importe quelles conditions, des week-ends, jusqu'à 6h du matin. Et je dis pas ça pour me plaindre, en mode je suis fatiguée. Je dis ça parce que c'est pas des conditions de débat qui sont correctes. Ni pour les citoyens qui peuvent pas suivre ce que disent leurs représentants, normalement. Ouais. Et donc ça permet de faire passer des crasses en catimini, quoi. Ni pour la démocratie parce que ça, et puis c'est pas possible de gouverner contre les gens constamment, quoi. Enfin, franchement, c'est la rentrée, c'est les déclarations de guerre sociale, quoi. Nous reparler, on a 10 millions de gens sous le seuil de pauvreté, quoi.
Parce que c'est pas réglé encore, hein, et on nous balance ça, j'avoue que c'est un peu rude.
Ouais.
C'est très rude même. Il y a quelqu'un qui demande combien il y a de lois qui sont votées en moyenne par an, tu sais, à peu près.
Non, en fait, ça dépend beaucoup. Je sais que nous, on avait un rythme plus élevé que ce qui s'est fait dans d'autres mandatures. Mais alors, combien de lois? C'est une très bonne question, mais j'aurais du mal à te dire. Je sais pas, au moins peut-être une trentaine, quarantaine au moins, je pense. Parce que tous les ans, on a eu des sessions extraordinaires, donc on a bossé l'été. Facilement quarantaine à mon avis.
Et alors, tu repars pour un mandat? T'as envie?
Pourquoi pas.
Ça t'a plu? Enfin, on n'a pas terminé encore, il reste un an, quand même. Là, t'as quand même un peu de recul sur...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai pas plus de deux mandats. Si je me représente, ça c'est clair que je referai pas plus de deux mandats.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de député?
Le lien avec les gens et avec les luttes. Ça c'est clair. Non, par exemple, en fait, être député d'opposition, bon, il y a des côtés qui sont satisfaisants. Du genre, la plupart des gens, quand ils sont très en colère contre une décision, ils sont très en colère. Moi, je suis très en colère et en plus, je peux leur dire en face.
Ouais,
généralement,
vrai.
En me manquant d'eux en plus. Donc, ça c'est quand même assez chouette.
Ouais. La session s'arrête en février.
Ouais, exactement.
C'est vrai.
Et
quelques mois, quoi. Quelques mois. Aïe, aïe, aïe.
Et la... Non, après ce qui est le plus sympa, c'est de construire des choses avec des gens, quoi. D'avoir vraiment... Enfin, il y a des luttes que je suis depuis 4 ans et sur lesquelles on a des victoires. D'autres, je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas de changement, tant qu'on n'aura pas dégagé Macron et viré Le Pen, on n'y arrivera pas. Donc, c'est à ça qu'on s'attelle. Mais puis, il y a des moments, super, quoi, quand on gagne des luttes collectives. Enfin, je sais pas, je pense à plein, mais celles qu'on a gagnées à la RATP, celles qu'on gagne... avec des écolos sur des projets, Europa City, on n'a pas tout à fait gagné, mais on a quand même gagné un peu. Celle qu'on gagne avec...
Des choses concrètes quand même.
Ouais, avec les sans-papiers de Chronopost, on a eu quand même 73 régularisations. C'est chouette, quoi. Avec,
Est-ce que ça, c'est des ça beaux t'a moments, changé ça.
Ah bah oui.
Ouais.
Ah bah ouais. Non, mais ça, c'est évident parce que, en fait, mine de rien, tu passes ton temps dans cette fonction à parler avec des gens. Donc, en fait, tu apprends toujours des choses. Donc, ça, ça te change. Après, le truc qui change pas, enfin, qui doit pas changer, je pense, par contre, c'est de savoir pourquoi tu le fais, quoi. Si tu as oublié pourquoi tu le faisais, faut partir. Parce que t'as vite fait de t'installer dans les dorures et je ne sais quoi. Et ça, c'est terrible. Faut jamais faire ça.
Ouais.
Toi, tu veux être députée, toi ?
Non, pas du tout. Ah non, moi, jamais de la vie. Moi, déjà, me mettre sur... Parce que j'ai peur de perdre mon indépendance et ma liberté de dire ce que j'ai vraiment envie de dire. Déjà, tu représentes des gens, donc t'as une responsabilité, tu peux pas dire que de la merde. Moi, c'est un peu...
Regarde ça, forgé.
Ouais, mais bon, justement, merci.
Ah, tu viendras
donc,
pas comme ça.
Non, mais ouais, je trouve que déjà, faut respecter les gens. Ils t'ont... C'est fort, quoi, un mandat. Je sais pas, les
gens
t'élisent, ils s'attendent à... T'as une responsabilité de ouf, quoi. Ils s'attendent à ce que tu les représentes, ils s'attendent à ce que tu fasses des bons choix pour eux. Tu n'as plus du tout la même parole. Tu vois, moi, enfin, tu vas sur Twitter, je raconte que de la merde. Et j'adore ça. Et j'ai pas envie de changer, quoi. C'est vrai. J'ai envie de clasher les gens, j'y vais. Je fais ça avec beaucoup de second degré, beaucoup d'humour. Je pense que typiquement, c'est le genre de truc qui ne pourront pas passer si jamais je suis élue, tu vois. Et puis, normal. Donc, ça, j'avoue que le changer, ce serait un peu dur. Après, ouais, le combat politique en soi, je trouve ça génial. Mais moi, ce qui me ferait peur, si jamais j'étais à ta place, c'est d'avoir le sentiment que finalement, tu te donnes, mais il y a des trucs qui sont tellement difficiles à changer. Et même, bon, malgré tout, hein, même si tu changes des trucs, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frustration aussi, non ?
Bah, alors déjà, il y a deux choses. Tu sais, on avait parlé de ça quand on avait fait, quand on avait parlé de ton livre sur les femmes en politique. Je pense qu'il y a des codes à casser, tu vois. Je te disais, faut inventer une manière d'être des femmes en politique parce qu'en fait, il y en a trop peu. Donc, en fait, ça s'invente vraiment et en cassant plein de codes. En reprenant d'autres et puis et chacune fait son trou, donc en vrai tu peux aussi faire avec du second degré et être une députée.
C'est vrai.
Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que je vais pas te dire qu'il n'y a pas de frustration, mais en vrai c'est pas spécifique à la fonction de députée. Moi avant je travaillais dans l'associatif, franchement j'ai eu des boules de rage à plusieurs moments de voir comment est-ce que des gens vivaient en fait dans notre pays, quoi. Enfin, et en fait pour moi, alors déjà il n'y a aucune lutte qui est jamais vaine. Même quand tu perds une lutte, en fait ça crée des choses en fait et ça laisse des choses.
Ça permet de la visibiliser.
Ouais, et puis même ça laisse des choses chez les gens qui les ont faites, chez les gens à qui tu t'es adressé, chez les gens. Enfin, il n'y a jamais aucune lutte n'est vaine, jamais. Et puis parce que si de toute façon tu commences à ne plus mener la lutte, ça veut dire que tu es complètement résigné, que c'est fini, quoi. Et ça, c'est le pire du pire.
C'est vrai.
Et puis il y a la deuxième chose, c'est que quand même, enfin, moi je suis en colère contre notre société, tu vois. Moi au départ, j'ai commencé à militer parce que je ne supportais pas qu'il y ait autant de gens qui vivent dans des conditions d'indignité totale pour notre République, alors qu'on est un pays méga riche, alors que. Au départ, c'est sur ce point-là, moi, que je suis rentrée en politique. Et en fait, je pense que si je ne faisais pas ce que je fais maintenant, pas forcément en tant que députée, mais en tant que militante, j'entends, avec un engagement politique, associatif, qui prend des formes différentes au fur et à mesure de ta vie, je serais pas très bien non plus, en fait.
Ouais, je comprends.
Et en fait, pour moi, c'est aussi une manière de tourner ça en quelque chose de constructif, en fait. Une colère en quelque chose de constructif. Et puis que moi, j'ai énormément d'admiration pour tu vois, des gens qui se battent dans des conditions... Enfin, nous, c'est facile, en vrai. Regarde, on est payé pour militer.
Ouais, c'est vrai.
Alors que moi, je me rappelle... non, mais tu vois, moi, je me rappelle avant, ben, tu vois, je faisais l'associatif toute la journée. J'avais 3 heures de transport parce que j'allais à Grigny tous les jours. Et le soir, je faisais les réunions politiques. Et le week-end, les réunions politiques, mais aussi l'événement associatif qu'il fallait... Et donc, tu vois, donc en fait, en vrai... c'est un moment où enfin
privilégié presque, ouais. De lutte,
ouais.
Ouais, c'est intéressant ça. Et il y en a parmi le chat qui veulent faire qui aimeraient être députés. Ah ouais, tiens, est-ce que tu as rencontré des députés blasés?
Est-ce que j'ai rencontré des députés blasés? Mais carrément. Donc, première fois que je suis arrivée à l'Assemblée, il y avait un vieux qui était là, des Républicains, qui nous a dit je suis à mon 6e mandat. Alors, je veux dire qu'au 6e mandat, ça veut dire que ça fait 30 ans qu'il... Enfin, un peu moins, 25 ans qu'il est député.
Il fait partie des murs, quoi.
Et bah oui, mais puis il fait plus rien, tu vois. Il doit venir une fois toutes les 3 semaines. Donc ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on a besoin que on redise et qu'on re-redise et qu'on refasse que ben, la politique, ça appartient à tout le monde, que c'est pas réservé à certains. Surtout pas à des gens. Souvent on me demande, il faut avoir fait quelle étude pour être député? Bah, aucune étude particulière, tout le monde peut l'être. Et plus on sera nombreux à justement changer on va dire, l'image et la sociologie traditionnelle des députés, mieux notre République et l'intérêt général ira. Ouais. Donc soyez députés, les amis.
Ce serait quoi ton premier conseil pour les personnes qui aimeraient faire ça? Parce qu'il y en a dans le chat qui disent, ouais, pourquoi pas, ouais, ça m'intéresse.
Eh ben, sachez pourquoi vous le faites, voilà, pourquoi vous voulez vous battre. Je pense que ça, c'est le plus important.
C'est dur quand tu viens de l'extérieur, on me demande.
Ouais, au départ, c'est un peu violent, mais bon, ça change quand même un peu, ça va. Ouais. Parce que je pense que j'aurais été députée il y a 20 ans, ça aurait été encore pire.
Surtout pour une femme.
Femme, ouais, c'est clair. Enfin, au départ, moi, personne ne croyait que j'étais députée. Ils pensaient tous que j'étais collaboratrice, donc ils voulaient me laisser rentrer nulle part. C'était un peu, bon... Mais non, mais en fait, il faut le faire parce que la politique, c'est notre vie commune. Et que si on laisse tout le monde faire carrière en politique avec que certains qui y vont, ben, on n'y arrivera jamais à faire changer les choses. Moi, je fais souvent un jeu avec... j'aime bien aller voir des classes, en fait.
Ouais.
Et donc, je fais avec... je demande aux enfants, à leur avis, combien est-ce qu'il y a de chômeurs à l'Assemblée nationale, de gens qui étaient chômeurs avant d'être députés. Sur 577, si on dit qu'il y a 10% à peu près de la population qui est chômeuse, il faudrait au moins 57 à 60 personnes qui étaient au chômage avant. Bah, il y en a zéro. Pareil, les ouvriers,
zéro.
Les ouvriers, bah, il y en a un. Bah, je t'avais déjà dit, mais Caroline Fiat, qui est avec moi dans le groupe, c'est la première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui est élue, quoi. Donc il y a quand même une importance aussi à changer la représentativité de cette assemblée, venir des femmes et à jamais accepter qu'on dise que c'est réservé à des experts ou à je ne sais quoi.
Non,
c'est la politique, c'est nos vies et du coup on a tous des choses à dire dessus.
Ah, il y a quelqu'un qui était au RSA?
Il était au RSA Activité, Jean-Hugues, ouais, t'as raison, ouais.
Il est quel groupe, lui?
France Insoumise.
Ah oui, il est avec vous, ouais.
Ouais. Bah ouais.
Collaborateur, bon, envoyez vos CV. Non, ça, toi, t'as une équipe constituée. Hein.
Pour l'instant, ouais, l'équipe est pleine. Mais vous pouvez toujours envoyer les CV et puis on file aussi aux copains pour dès qu'il y a des changements d'équipe, comme ça, ils envoient.
Bon, on est pas mal là. Je crois que ça fait une heure qu'on papote, quand même.
Bah ouais. Bah, ça
les
passe,
gens,
hein.
On va peut-être vous laisser. Ça demande quoi d'être collaborateur? Tiens, ça c'est une bonne question à laquelle tu peux répondre quand même avant.
Alors,
parce que je crois qu'il y en a qui sont intéressés là.
Ça demande quoi d'être collaborateur? Bah pareil, il n'y a pas d'études spécifiques à faire pour être collaborateur. En gros, bon, ça demande un peu de temps quand même,
ouais,
je vais pas
c'est
mentir.
Du taf, hein.
C'est en gros, nos équipes, elles aident à nous accompagner dans les déplacements qu'on fait. Donc, bon, si vous choisissez un député de La République En Marche, je vous dirai pas souvent en manif, donc ça ira. Si vous choisissez un ou une députée La France Insoumise, là vous irez sûrement un peu plus.
Donc pas de week-end, voilà. Pas de samedi.
Voilà, donc les samedis, les dimanches. De faire la communication, le lien avec les journalistes, le lien avec tous les habitants de l'endroit, des villes où vous êtes élus, des associations.
Il y a des collabs à l'Assemblée et il y a aussi ce qu'on appelle les collabs en circo.
Ouais,
donc des collabs qui bossent sur le territoire de la circonscription de l'élu en fait. Mmh. Toi, t'as tout le monde ici ou t'as aussi quelqu'un
J'en
en circo?
J'en ai deux à l'Assemblée et puis une en circonscription.
Voilà, donc voilà. Après, même pour les personnes qui ne sont pas à Paris, c'est quand même super important de rappeler qu'il est possible d'être collaborateur, collaboratrice parlementaire.
Pourquoi vous criez lorsque vous intervenez à l'Assemblée?
Ah, une bonne nouvelle, attendez. Le CSA demande aux médias de décompter la prise de parole de Zemmour pour la présidentielle. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Yes.
J'avoue. C'est bien.
Bravo le CSA.
Le multi-condamné à la haine raciale.
C'est quoi ton secret pour être aussi belle? C'est vrai, tiens, tu nous partages tes secrets beauté?
Oh bon, moi je me fais. Je fais du vélo l'été.
Ça, voilà, c'est vrai, ça fait bronzer.
J'ai fait 1000 km cet été.
1000 km?
Eh ouais.
Oh waouh! Ah, ça c'est cool.
Voilà, voilà. C'est
t'as
mes
fait
étés
un tour
préférés.
Spécifique ou t'as juste cumulé plusieurs
non,
destinations?
Non, là j'ai fait un gros tour. Je suis partie Niort, j'ai fait toute la côte atlantique. Poup, poup, poup. Après, je suis remontée par Bordeaux. Stylé. Voilà, enfin voilà. Et puis après, j'ai fait un petit saut jusqu'à Tours. Et de Tours, je suis repartie à Ivry-sur-Seine.
Trop bien.
Voilà!
Eh bien, merci, prenez soin de vous. J'espère que ce live, enfin ce stream vous aura plu. Merci à Mathilde d'avoir pris ce temps, de nous avoir accordé du temps pour parler de politique avec nous. C'était vraiment super cool. Des bisous, des bisous, des bisous. Prenez soin de vous. Merci, merci, merci. J'espère que vous avez kiffé. Et puis, ben.
J'ai fait le tour de vélo avec Pierre-Yves en Bretagne, à un bout. 3-4 jours, mais merci beaucoup, merci à toi Léa, merci
avec
à vous,
plaisir.
Et puis une très belle soirée à vous, et puis plein de force pour la suite.
À tout bientôt, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec qui, je sais pas encore, mais
surprise.
Ouais, surprise.
Qui j'espère ne te mettra pas son verre sur ton jean.
Ah oui, 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 non, non, bah là c'est bon, ça a séché, tu
ah,
vois.
Voilà,
salut les gens, merci beaucoup, bonne soirée, super, bisous, bisous, ciao, ciao. Apple.